Oui, c'est bien le sujet. Entre incertitude et risques politiques d'un côté et fondamentaux macroéconomiques, voire microéconomiques avec les résultats d'entreprises qui vont revenir, qu'est-ce qui fait bouger les marchés aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire bouger les marchés demain? On en parle avec Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vos commentaires chez Carmignac. Votre analyse de la situation, alors de la situation politique française dans cette entre-deux-tours et de ce qu'elle peut impliquer pour un investisseur investi en France et plus généralement investi en Europe aujourd'hui, Kevin.
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Alors, le premier, c'est qu'on a le risque extrême, et sans mauvais jeu de mots, hein, ce qu'on appelle le tail risk en anglais, qui se réduit avec les résultats de ce premier tour, et donc la probabilité de voir une majorité absolue d'un parti, on va dire, non orthodoxe, qui est moins élevée. Hein. Pour autant, on est dans l'entre-deux-tours. Hein. Il faut, je crois, ne rien écarter. Et ça amène, on va dire, une vraie respiration sur les marchés. On le voit sur les primes de risque attachées aux souverains français, aux actions bancaires, hein, qui reperforment quand même très très fort en ce début de semaine, ou sur l'euro. Pour autant, il me semble que c'est quand même une lecture un petit peu optimiste de la situation. Hein, si je dois paraphraser Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien, mais quand même, on va dire, le scénario qui semble être anticipé par les marchés, c'est celui d'une non-majorité. Ouais. Et donc, devoir, on va dire, faire des alliances, ouais, pour pouvoir gouverner, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux en France. Ça se fait très bien dans d'autres pays européens, pas forcément en France. C'est là où le parallèle avec l'Italie me semble peut-être, ou la Belgique me semble peut-être quand même un petit peu
limité.
Optimiste,
ouais,
exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça, c'est un élément. Et l'autre, c'est quoi? Bien, c'est que on s'était souligné à l'instant par Monsieur Plassard, hein, c'est que on va pas avoir de grandes réformes structurelles sur cet horizon de temps-là. On a des marches en arrière qui sont faites, hein, de rétropédalage sur la réforme des retraites qui devait être mise en place là, et on attend. Hein, donc ça, c'en est un. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre magique, hein, l'argent magique, hey, continue à être distribué. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la croissance potentielle, et puis pour les finances publiques françaises.
Ça veut dire que ce scénario un peu central que joue le marché aujourd'hui, les anglo-saxons parlent de hung parliament, mm-hmm, parlement suspendu, ingouvernable, sans majorité absolue, etc. Oui, ça peut apporter un soulagement de court terme, mais c'est pas un scénario ultra bullish non plus pour le moyen-long terme. C'est ce que je comprends, Kevin.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, hein, il y a souvent des précédents qui sont utilisés, celui de l'Italie avec Meloni, mais Giorgia Meloni n'est pas Jordan Bardella. Il y a quand même des points de différence majeurs, hein, qui soient liés au fonctionnement de la démocratie italienne, plutôt axé sur un parlement contre un président, on va dire une sensibilité, hein, de la population italienne à des périodes d'austérité marquées, à du stress sur les marchés financiers, on se rappelle de 2016 notamment, moins le cas en France. Et puis je crois qu'il y a aussi une position pro-Europe assez forte, hein, de la part, et pro-OTAN assez forte de la part de Mme Meloni. C'est pas du tout le cas de M. Bardella. Donc ce parallèle-là me semble quand même un petit peu tiré par les cheveux. Et de même sur des gouvernements, on va dire, dits plus techniques, je suis moins convaincu que ça fonctionne. En France. Donc, à votre question qui était comment est-ce qu'on fait pour essayer de se désensibiliser, ouais, en tout cas de gérer avec ça, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Un, c'est l'internationalisation, c'est important quand même, c'est des principes de base, mais pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on investit, c'est tout à fait salutaire, je crois. Donc ça, c'en est un. Et il y en a un deuxième, c'est quand même les valorisations. C'est-à-dire que, là aussi, ça a été indiqué et commenté grandement. On parle beaucoup du mouvement très fort qu'il y a pu avoir sur l'OAT par rapport aux obligations allemandes, hein, donc le 10 ans français par rapport au 10 ans allemand. Sur le CAC 40, le point de départ, ce n'était pas le même. C'est-à-dire que quand on avait, pré-élection, un spread, donc cet écart de taux, ouais, France versus Allemagne, à 40 points de base, 50 points de base.
C'était ça l'anomalie.
Avec un déficit à 4,5%, voire plus.
D'accord.
Ça, c'est une anomalie. Et quand on regarde sur les marchés actions, on avait aussi un CAC 40 qui traitait sur des niveaux de valorisation qui étaient bien plus élevés que ceux de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Allemagne. Donc le point de départ, il est aussi important, je crois.
Ouais. Intéressant de noter d'ailleurs que le mouvement de spread se fait de plus en plus via le Bund allemand. Hein. Le spread serait seul aujourd'hui, mais parce que le taux allemand remonte plus que le taux français qui, lui, reste autour de 3,30 plus pour la partie 10 ans.
Hein. C'est ça, on avait ce phénomène de vase communicant, ouais, je crois. C'est-à-dire que là aussi, on a vu, hein, dans cet épisode de stress politique-là, on a vu des primes attachées à l'État français remonter alors que le taux moyen de l'OAT était, lui, on va dire, relativement stable. Donc on avait bien des vases communicants entre des investisseurs positionnés sur des actifs de dette française qui favorisait l'Allemagne. Et là, il y a sans doute une forme de, voilà, de respiration et un peu moins d'angoisse.
Quand vous dites l'internationalisation des portefeuilles et des stratégies est une réponse pour se désensibiliser à ce risque ou ces incertitudes politiques en France qui se répercutent aussi en Europe, est-ce que ça remet dans l'absolu, en cause, le cas d'investissement européen qui semblait retrouver un peu de traction avec un léger redécollage économique, là où les États-Unis sont plutôt sur une pente d'atterrissage, avec une BCE qui avait déverrouillé, j'allais dire, l'idée de quelques baisses de taux devant nous. Tout ça était des arguments importants pour des investisseurs globaux. Est-ce que tout ça est remis en cause ?
Alors, si je regarde les flux, oui. C'est-à-dire qu'on a eu 3-4 semaines, de flux positifs sur les actifs risqués, sur les actions européennes cette année. Ce mouvement-là, il s'est inversé au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, en Europe, on est quand même toujours dans un cadre où on s'attend bien à ce qu'il y ait une reprise de la croissance économique, en France, mais plus largement en zone euro, en 2024, en 2025.
Le niveau d'incertitude également n'empêche pas l'idée de cette reprise économique.
L'incertitude, et encore une fois, elle est relativement élevée, elle ne sera pas totalement levée avant une semaine, voire plus, en fonction de ce qui se passera.
Oui, la séquence va se poursuivre.
Exactement.
Si
mais en l'état, ce qu'on anticipe, ce qu'on peut voir, c'est que cette incertitude-là, elle peut peser sur le sentiment, elle peut peser sur une volonté d'un consommateur à dépenser à court terme, un chef d'entreprise à investir, mais plus sur un sentiment qu'une réalité économique aujourd'hui. Les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne, elles ont été enclenchées. Nous, on anticipe toujours une baisse de taux par trimestre. Là aussi, quand on regarde des indicateurs avancés, on voit que les salaires continuent de progresser, mais à un rythme moins important que par le passé. Et puis, ce rebond manufacturier, cette reprise manufacturière mondiale, elle peut aussi bénéficier à l'Europe.
Intéressant d'ailleurs de noter du point de vue des banques centrales, mais ce sera, j'imagine, un des points de discussion à l'occasion du forum de la BCE à Sintra cette semaine. Alors, c'est une prise de parole qu'a eu le gouverneur de la Banque de France, François Hubert Gallo, la semaine dernière, indiquant, alors, la fonction de réaction est en train d'évoluer, c'est-à-dire la banque centrale est plus à l'aise avec l'inflation qui continue de se modérer, et partant de là, elle sera beaucoup plus attentive aux projections, aux prévisions, en essayant de donner de la visibilité aux investisseurs plutôt que regarder chaque point de données et le flux permanent des données sur les marchés. Il y a quelque chose d'un peu plus forward-looking, comme on dit, du côté des banques centrales et particulièrement de la BCE aujourd'hui.
Oui, je crois. J'indiquais donc une baisse de taux par trimestre. On a des anticipations qui sont un peu plus positives que le reste du marché à ce niveau-là. Je crois que là, on est encore plus positif sur, un biais un peu plus facilitateur d'une banque centrale, c'est aux États-Unis.
Ah.
Parce que là, on commence à voir quand même une économie américaine qui ralentit. Je ne suis pas en train de parler de récession ou d'atterrissage en douleur de l'économie américaine, mais d'une économie qui ralentit. On a eu des chiffres du consommateur qui montrent quoi ? Qui montrent que le consommateur américain, la croissance de la consommation aux États-Unis, elle est autour de 1,5-2%. Donc ça revient sur des niveaux moyens qui prévalaient.
Les normes antérieures.
Exactement. Ah ouais. Donc ça, c'est un élément. On l'a vu sur l'inflation aussi. On a eu un chiffre d'inflation, le core PCE. Alors désolé pour le jargon, mais la donnée d'inflation la plus regardée par la Réserve fédérale américaine, qui est à 0,08% sur le mois. Donc là aussi, ça montre quand même qu'on a une économie américaine qui ralentit. On a d'autres indicateurs, en tout cas on parle de la partie macro, mais il y a la partie micro aussi. Et on voit des entreprises qui sont en général quand même un bon reflet du consommateur et du consommateur américain. On voit une entreprise comme Nike par exemple, qui là aussi fait moins bien que ce qui pouvait être attendu.
Et ces signaux-là, la Fed y est attentive dès aujourd'hui, ça se transparaît dans les discours, en tout cas dans les discours de ceux qui comptent au sein du comité.
Oui, je crois, et c'est-à-dire que ce qu'anticipe le marché aujourd'hui, c'est à peu près une baisse de taux pour cette année. Je ne suis pas banquier central. Mais c'est possible qu'il y en ait plus,
d'autant dès septembre.
Exactement, d'autant plus que le risque électoral ou le risque politique, il existe en France, il est cristallisé, beaucoup regardé en France aujourd'hui, mais il existe aussi aux États-Unis. Et il y a quand même un corollaire du débat entre M. Biden et M. Trump de la semaine dernière, qui est que la probabilité de voir M. Trump a largement remonté. Si je regarde les meilleurs pronostiqueurs, c'est quoi, 60%, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il faut quand même commencer à regarder qui pourra être le patron du Trésor américain.
Prendre au sérieux milieu, l'équipe et l'administration Trump.
Il y a quand même quelques candidats qui semblent se démarquer, notamment certains gérants de fonds alternatifs aux États-Unis. Et quand on regarde un petit peu ce qu'ils décrivent, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une politique très réganienne. Donc, on va dire, une politique de l'offre très importante, avec une volonté de, de faire remonter fortement la croissance potentielle aux États-Unis autour de 3%. Dans le même temps, réduire les déficits américains autour de 3%. Et ça, en venant, produire toujours plus de pétrole, notamment. Ça a quand même un impact. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est fait ? C'est fait avec moins de régulation d'un côté, des baisses de taxes pas forcément fundées ou financées de l'autre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réserve fédérale américaine, ce qu'elle pourra faire en 2025, sera peut-être pas autant que ce qu'elle peut faire là maintenant en 2024.
Ouais. Bon, la fenêtre de tir pour la Fed, c'est maintenant.
Ouais.
Une fois qu'on a dit ça, effectivement, comment on organise les portefeuilles, donc on a compris l'idée de l'internationalisation. Concrètement, sur les marchés actions, ça veut dire qu'on privilégie encore le marché américain aujourd'hui par rapport au marché européen. On privilégie toujours l'idée des grandes capitalisations plutôt que les petites. On ne sort pas de cette logique-là aujourd'hui, Kevin, ou est-ce qu'on peut être plus équilibré? Qu'est-ce qu'on fait avec les émergents? Et puis sur les taux, bon, on l'a bien vu encore dans la séquence. La duration reste pour l'instant un pari compliqué.
Ouais, donc il y a plusieurs façons de le voir. C'est-à-dire que si je raisonne en termes de séquence, donc on parle bien d'une forme de ralentissement
américain.
Et dans ce cadre-là, il faut plutôt aller investir sur des entreprises, un peu plus défensives ou qui ont, une relative bonne visibilité sur les trajectoires de résultats. Par contre, il faut le faire en étant conscient des prix. Parce que la séquence que je décrivais, elle veut quand même dire que potentiellement, on aura des taux réels qui resteront quand même potentiellement élevés pour un peu plus longtemps à terme. Ouais. Comme vous le soulignez, la séquence sur les taux, elle est loin d'être évidente. Et donc, on va plutôt essayer d'aller chercher des acteurs. Si je regarde, par exemple, dans le secteur de la santé, plutôt que d'aller investir sur ces grands laboratoires pharmaceutiques que tout le monde connaît et regarde, il y a des entreprises qui font de la distribution de médicaments. Donc là aussi, ils sont peut-être moins sujets à, du risque politique.
Que le prix.
Exactement, il n'est pas lié au prix. Il est lié au nombre de médicaments qui sont distribués. Donc ça peut en être un. Des sociétés comme l'assurance santé aussi qui traitent en général sur des niveaux de valorisation qui sont moins élevés. Donc ça, c'est une partie des investissements. Je crois qu'en Europe, il y a peut-être aussi un peu de... On peut y faire ses
valeurs
dans cet environnement où il y a quand même du stress. Pas convaincu que qu'on achètera moins de lunettes ou moins de lentilles demain en fonction de qui sera la prochaine personne à la tête de l'État français. Donc ça peut être d'autres instruments à rentrer dans un portefeuille. Et sur la partie obligataire, on reste quand même relativement prudent, et notamment sur les obligations les plus longues, parce que tout ce qu'on décrit, ça veut quand même dire peut-être un peu plus d'inflation à terme,
et des primes de risque, des
déficits à financer. Et donc, préférer des maturités un peu plus courtes. Donc, il y a quand même une forme de plafond sur... On peut exclure le fait que la Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne sera amenée à remonter ses taux à horizon 6-9 mois. Donc, ça fait une forme de plafond. Et par contre, elles peuvent en faire plus que ce qui est anticipé aujourd'hui. Donc, des actions... 30-35% si je prends notre fonds phare Carmignac Patrimoine. Des obligations plutôt du 2 à 5 ans. Des marchés d'échange, peut-être plus de dollars que d'euros. Là aussi, ça peut être une bonne assurance de portefeuille. Et puis bien performé si on retrouve un peu cet exceptionnalisme américain.
Tout ça dans un contexte politique évidemment très agité. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission chaque lundi à la mi-journée. Donc vous retrouvez Smart Bourse sur Bismart et ce soir à 17h pour la grande édition.